ensemble sur Calade. 100.9 Calade.
Allez, tout de suite pour une toute nouvelle rubrique d'Ensemble sur Calade, la rubrique Zéro Déchet de Marie Maglone. On retrouve Carole Sénélard. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous allez bien, en forme ?
Oui, merci, et vous ?
Bah, très bien, très bien. Je suis content de se lancer dans cette nouvelle rubrique. On va parler de zéro déchet. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour nous ? Qu'est-ce que vous allez nous expliquer aujourd'hui ?
Alors, dans un premier temps, je vais définir ce que c'est qu'un déchet, ce qu'on peut en faire, comment on peut les réduire et où les placer pour éventuellement les trier. Et puis, on va un peu plus aller en profondeur dans la visite que moi j'ai pu faire de l'incinérateur de Villefranche. Donc, on va se recentrer sur les déchets que nous produisons en Calade et ce qu'ils deviennent.
Très bien. Eh ben, on vous écoute. C'est parti.
Alors, il faut savoir qu'en France, on génère beaucoup de déchets. C'est environ 420 kilos par an et par personne. Mais ça a beaucoup évolué depuis plusieurs années, puisque en 1960, on était plutôt à environ 400 grammes par jour et par personne.
Ah ouais.
Donc ça a énormément évolué.
Ouais.
On produit de plus en plus de déchets. Et donc, on va définir ce que c'est qu'un déchet. Donc, un déchet, c'est tout ce qui reste une fois qu'on a produit ou qu'on a utilisé quelque chose. Alors, ça va être la peau de banane quand on aura fini de la manger, par exemple. Ça, c'est un déchet qu'on va pouvoir composter, qu'on va pouvoir recycler naturellement. Vous avez l'emballage de votre votre yaourt, donc ça sera le pot de yaourt par exemple, mais ça peut être aussi tous les déchets qu'on génère pour produire quelque chose. Quand on produit une voiture, quand on construit une voiture, on va découper des pièces dans du métal et il va y avoir des déchets qui vont être générés. Et puis, il y a de l'énergie aussi qui est utilisée.
Ouais.
Et donc, cette énergie qui est utilisée, elle peut aussi générer des déchets. C'est le fameux CO2, etc., ou l'impact carbone. Donc, on a plusieurs solutions pour réduire ces déchets. Ebea Johnson, la Française qui habite aux États-Unis, qui a lancé un peu toute cette mouvance autour du zéro déchet, dit toujours que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas.
Ouais.
Donc aujourd'hui, on sait qu'on en produit, on peut essayer d'en produire moins, mais on peut aussi voir ce qu'ils deviennent et comment les réduire pour justement avoir moins de déchets à trier et à recycler quand c'est possible de les recycler au quotidien. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'ils deviennent justement ces fameux déchets, les déchets courants ?
Alors, on a plusieurs solutions. On a tous les déchets qu'on peut déjà trier. C'est-à-dire que tout ce que vous mettez dans votre sac poubelle, ça ne sera pas trié.
Ouais.
Ça va arriver dans un incinérateur ou dans une décharge, parce qu'il faut savoir qu'en France, soit nos déchets sont enfouis, soit ils sont brûlés. Donc, on préfère évidemment la deuxième solution, qui est bien meilleure, puisque le déchet peut, en brûlant, générer de l'énergie. C'est ce qui se passe à Villefranche, puisque c'est une EVE, c'est une unité de valorisation énergétique. Mais on va y revenir. Quand on a des déchets, il faut se demander ce qu'on peut en faire et ce qu'on peut, comment on peut les revaloriser. Donc, on a plusieurs bacs qui sont mis à notre disposition, soit au restaurant, soit dans notre bureau, soit dans notre maison,
ouais.
Au quotidien. On peut déjà trier ces déchets. Donc, dans le bac vert, on va pouvoir mettre tous les verres produits pour être des emballages alimentaires. Donc, on va y mettre notre bouteille de vin, notre bocal de confiture, notre bocal de conserve de haricots verts, par exemple. Tout cela va être lavé, broyé, trié, fondu à plus de 1500 degrés pour reproduire d'autres bouteilles, d'autres bocaux, d'autres contenants en verre.
Ouais.
Par contre, il ne faut jamais y mettre une assiette en verre ou en porcelaine, un verre dans lequel vous buvez, sauf le verre de moutarde, parce qu'il a déjà contenu un aliment, mais c'est important.
Oui,
pourquoi ? Parce que ces verres-là ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas le même point de fusion. Et donc, du coup, ils vont fondre, mais ils vont générer des défauts dans les nouveaux contenants, et donc, du coup, ils vont être recalés.
D'accord.
Donc, c'est important de faire la différence entre le verre qui a contenu un aliment, donc c'est facile à retenir, tous les verres qui ont contenu un aliment, on peut les mettre dans le bac vert. Les autres, on va les mettre en déchetterie, ce sera mieux.
Ouais.
Dans le bac jaune, on va trier le plastique, le carton, les emballages métalliques, par exemple, comme l'acier ou l'aluminium, tout ce qui ressemble à un flacon ou à une bouteille. On peut y mettre notre carton pizza, mais il faut qu'il soit vide, évidemment. Ça paraît logique, mais pas de reste alimentaire. Et donc, tous ces cartons aluminium vont être triés, vont être recyclés pour refaire du carton, de l'aluminium, etc. Il faut savoir que l'aluminium est recyclable quasiment à l'infini. Donc, une canette est recyclable. Elle sera bien meilleure en termes de, comment dire, de déchets qu'une bouteille en plastique, puisque le plastique, lui, peut aussi être recyclé, mais au bout d'un moment, il n'a plus les mêmes capacités. On est obligé de remettre du nouveau plastique, entre guillemets, des nouvelles billes de plastique.
C'est quand même limité.
Pour le revaloriser. L'aluminium, lui, comme la tablette aussi, vous savez, l'emballage de la tablette de chocolat.
Ouais.
Alors, on peut le recycler parce qu'avant, on disait qu'il ne le prenait pas. Par contre, il faut en faire une grosse boule pour qu'elle soit repérée. Donc, si vous mangez beaucoup de chocolat en tablette, bah, vous récupérez vos emballages, vos papiers d'aluminium, mais vous en faites une boule de la taille environ d'un œuf ou d'une balle de tennis avant de la mettre dans le bac jaune. Comme ça, elle sera vraiment recyclée.
D'accord, d'accord. Il faut que ça ait un certain volume. Vous avez dit repérer, c'est au moment où ça...
C'est au moment où c'est trié par les machines quand ça arrive. C'est-à-dire que le bac vert, le bac jaune, le bac bleu, ils sont récupérés, stockés dans des usines de recyclage. Ouais. Donc, on sait à peu près tout recycler, mais il faut quand même trier en amont. Et effectivement, oui, il faut que les... C'est des lecteurs laser qui font le tri. Et puis l'humain, évidemment, puisque... Ils sont obligés de repasser des fois pour finaliser le tri. On peut aussi recycler sa boîte de lait, puisqu'aujourd'hui, on sait séparer l'aluminium du carton. Donc, ça, c'est important. Ouais. Dans certaines communes, les pots de yaourt sont recyclés ou pas. Donc, ça, il faut se renseigner dans sa commune. Et puis, il reste le bac bleu. Alors là, ça va être tous les papiers dits graphiques, les journaux, les lettres, les courriers, les revues, les magazines. Mais pas le papier gras du boucher, par exemple. Voilà.
D'accord.
Lui, il doit aller directement à la poubelle.
Ouais.
Ouais. Donc, une fois qu'on a fait tous ces tris-là, il va nous rester évidemment quand même encore beaucoup trop de déchets. Mmh. Et ces déchets-là, ils vont aller dans le sac poubelle et eux, ils vont arriver à l'incinérateur de Villefranche. Alors, il faut savoir que l'incinérateur de Villefranche, il traite les poubelles de 260 communes. Ouais. Donc, c'est près de 360 000 habitants dans les Calades, entre l'Ain, le Rhône et la Saône et la Loire. Donc, c'est énorme. C'est 80 000 tonnes de déchets par an environ. C'est pour ça qu'on peut calculer que ça fait environ 420 kilos par an et par personne.
Ouais.
Et donc, les déchets de l'incinérateur de Villefranche-sur-Saône sont donc brûlés à une certaine chaleur pour produire de l'énergie. Et donc, cette énergie va permettre de chauffer des habitations, des collèges, des locaux qui sont sur la commune de Villefranche-sur-Saône. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une UVE, une unité de valorisation énergétique. Par contre, c'est important de trier en amont parce que vos poubelles, quand elles arrivent au centre, à l'incinérateur, elles ne sont pas triées. On considère que là, le tri a déjà été fait. Et donc, à l'incinérateur, on ne fait que malaxer les déchets, les mélanger pour que ça soit homogène, et on va les brûler. Mmh. Donc, c'est important de le savoir et ça permet justement d'avoir un tri en amont et puis surtout, de prendre conscience de ce que deviennent nos déchets, c'est important.
Ouais. C'est-à-dire que si nous, on ne fait pas le tri, il sera pas fait derrière.
Il ne sera jamais fait. Ouais. Le flacon de gel douche, il faut le mettre dans le bac jaune.
Ouais.
Le papier gras du boucher, c'est dans la poubelle. Donc, c'est important de savoir, il faut vraiment se référer à ce qu'il y a de marqué sur les containers que nos mairies mettent à notre disposition pour savoir ce qu'on doit trier ou pas. Alors, le plus important aussi, c'est de trier son compost. Enfin, c'est d'avoir un compost pour trier tout ce qui est déchets alimentaires.
Ouais.
Les restes de repas, les épluchures, quand on cuisine aussi, on peut avoir des déchets, les miettes de pain quand on a fini de couper du pain, tout ça, c'est des déchets alimentaires qui vont au compost. Il en existe à peu près de différentes tailles, qu'on peut avoir dans une cuisine ou qu'on peut avoir sur un balcon, qu'on peut avoir dans un jardin si on a la chance d'avoir un jardin,
etc. En fait,
et donc ça, faut vraiment pas le mettre dans la poubelle parce que c'est dommage.
Ouais,
on recycle pas.
Mais c'est moi je trouve le compost on sait jamais quoi en faire, j'ai pas de jardin donc qu'est-ce qu'on fait d'un compost?
Alors le compost, il faut le voir en trois étapes, c'est-à-dire qu'on va le mieux ça serait quand on n'a pas de jardin, c'est d'avoir un compost au pied de son immeuble si c'est possible, en faire la demande auprès de sa mairie pour avoir un compost à plusieurs dans un immeuble au pied de plusieurs maisons de ville, etc. On peut tout à fait le faire et l'entretenir. Les déchetteries récupèrent des déchets verts, donc on peut aussi l'emmener en déchetterie, puisque là, ils vont faire un compost géant. Et la déchetterie de l'Ave Maria a un compost géant. Donc, ils récupèrent tous les déchets verts, alors que ça soit de la taille ou votre compost, finalement, de maison, d'appartement, c'est-à-dire vos déchets alimentaires, peuvent être inclus dans le... dans ce compost-là. Et donc, ça va être vendu après sous forme de terreau pour rempoter, pour voilà, refleurir.
C'est chouette.
Puisque le compost, en fin de compte, c'est vos déchets alimentaires qui sont grignotés par des vers, ouais, digérés et qui sont transformés en un terreau fertilisant finalement, puisque vous avez un peu de tout. Et du coup, c'est très enrichissant et on peut effectivement, si on n'a pas de jardin, on peut le mettre au pied, comme vous dites, dans la forêt, on peut le mettre au pied d'un arbre, dans la rue, on peut vraiment, mais il faut qu'il soit fait, il ne faut pas qu'il soit en cours. C'est pour ça que je disais trois étapes, parce que la première étape, ça va être le stocker pendant une semaine. Après, vous allez le retourner et le mettre un peu plus loin et le retourner au bout d'une semaine. C'est-à-dire que ça vous permet d'aérer votre compost et ça lui permet aussi de se régénérer plus facilement.
D'accord. Et ça s'entretient.
Pour une maison, c'est bien d'avoir, comment dire, trois bacs. Voilà.
D'accord. Et on fait passer de l'un à l'autre.
Et aérer son compost. Mmh.
Très bien. Eh bien, on sait beaucoup de choses maintenant sur nos déchets dont on n'était pas forcément au courant avant.
Merci
beaucoup, Carole, pour cette toute première rubrique, la rubrique Zéro déchet de Marie Maglone. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et on se dit à très bientôt pour en apprendre encore un peu plus sur les techniques de zéro déchet.
Avec plaisir, merci beaucoup, à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Ensemble sur Calade.